nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Aujourd'hui, je reçois dans Belles Traces un renard des neiges. Si vous suivez les Jeux Olympiques et le biathlon, vous le connaissez forcément. Il a fait craquer le grand Björn Dahlén au sprint lors des Jeux de Turin en 2006 pour aller gagner cette superbe médaille d'or. Vincent Defrane a des médailles de toutes les couleurs en individuel et en équipe, et il a aussi une reconversion professionnelle impressionnante, avec notamment la création de sa marque de vêtements de sport, outdoor, dont on va parler, Ayak. Bien évidemment, voilà, on va parler de tout ça et beaucoup d'autres choses, parce qu'en plus, il est bavard, comme moi, et je suis donc très heureuse et impatiente d'échanger avec Mr. Vincent Defrane. Salut Vince.
Salut Flo.
Ça va?
Oui, bien, bien. Content bon. D'être avec toi, c'est
ouais.
Un plaisir.
Alors, en fait, on se retrouve à Paris,
ouais.
Loin de notre montagne, loin de ton Jura aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es aussi consultant pour l'équipe TV, pour le biathlon.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que ça me permet de rester en contact avec le biathlon, que j'aime toujours autant, mais que je vis différemment depuis l'arrêt de ma carrière. Et en effet, on se retrouve là à Paris, c'est sympa.
Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être consultant justement télé, d'être passé de l'autre côté? Est-ce que tu imaginais ça aussi?
Alors, en tout cas, ce que ça m'apporte, je découvre des choses. Je découvre ce genre d'univers, de comment retransmettre des courses de biathlon, à la fois le côté technique, le côté journalistique, le côté éditorial. Et en fait, moi, je suis assez curieux quand même. Et je pense que j'aurais pu faire, si j'avais assez de temps, un stage dans un peu tous les univers et que je m'éclaterais à découvrir plein de choses. Et c'est le cas, en tout cas. Donc, ça m'apporte ça, une belle découverte. Découvrir un milieu et son fonctionnement, découvrir des gens que je trouve passionnés, et ça a été le cas aussi avec Eurosport, et ça a été précieux pour moi. Et puis, tout simplement, ça me permet, ouais, c'est un peu ça, de rester en contact avec le biathlon, que j'aime, mais différemment, et que je suis différemment maintenant.
Est-ce que tu aurais, si tu avais eu ce rôle avant, enfin, tu avais pu être de l'autre côté de la barrière avant, est-ce que tu aurais changé des choses en tant qu'athlète? Parce que là, maintenant, tu as un autre regard sur certains comportements, certains choix de carrière, certaines, notamment au tir. Est-ce que ça t'aurait, tu penses que ça t'aurait servi aussi?
Oui, sûrement. Parce que là, en effet, j'ai un rôle un peu de décortiquer ce que je vois, d'essayer de l'analyser, de l'expliquer et de le comprendre. Et donc, de parfois proposer modestement des pistes pour changer quand ça va mal, pour appuyer encore plus quand ça va bien. Et ouais, forcément. Mais après, voilà, c'est vrai que quand on est athlète et c'est... On ne peut pas sortir de cette peau d'athlète parce qu'on a besoin de ça pour être intensément dans sa carrière. Mais ouais, en tout cas, c'est forcément utile à certains moments d'analyser ce qui se passe pour les athlètes. Et puis, si on peut modestement leur passer un peu notre avis quand on a vécu une carrière, je pense que c'est sympa.
Tu le fais ou tu as été sollicité par des athlètes en ce sens ou...
Oui, un peu régulièrement, jamais de manière très continue parce que je n'ai pas voulu, en tout cas, être coach ou... faire ce genre de choses de manière régulière et structurée. Mais c'est vrai que je suis, finalement régulièrement sollicité par un athlète en individuel ou un coach, parfois en région, qui me demande de venir discuter avec des athlètes, passer un moment sur une séance. Donc je le fais par petites touches, assez régulières en fait. Avec Caroline Colombo, on l'a fait il y a quelques années par exemple sur le tir couché, elle avait besoin un peu d'échanger. Ou d'autres choses comme ça, avec des plus jeunes dans le Jura.
Ah, c'est génial. Ouais. Ah bah alors, dans le Jura, la transition est toute faite, hein, parce qu'on entend avec ce petit accent. Tu as commencé tes débuts, c'était à Pontarlier à 3 ans, c'est ça, par ski de fond, j'imagine.
Ouais, ski de fond, moi je suis en effet pontissalien, des montagnes du Jura, le département du Doubs, et puis j'ai été baigné par ma famille dans le ski de fond. Puis le biathlon est arrivé un peu plus tard à l'adolescence. Et j'ai vite été skieur et puis compétiteur progressivement, en fait, petit à petit.
D'accord.
Ouais.
Mais compétiteur aussi dans le ski de fond et après dans le biathlon, comment tu as fait la transition? S'il y a eu une transition, peut-être que
ouais, c'est... Oui, il y a eu une transition. Alors, j'étais clairement à fond dans le ski de fond jusqu'au lycée. J'ai fait un ski-étude à Pontarlier, dans la section du lycée Xavier Marmy. C'est marrant d'en parler. J'ai un de mes fils qui est là-bas maintenant. Et en effet, c'est là, bizarrement, c'est là que j'ai découvert le biathlon. Pas découvert, mais c'est là que je m'y suis vraiment intéressé. Parce que le biathlon, je l'avais vu au jeu d'Albertville. Mais à ce moment-là, en 92, j'étais jeune athlète en ski de fond. Et j'étais surtout attiré, impressionné par Hervé Balland, par le ski de fond. Et puis, j'ai eu un déclic à un moment, lors d'une séance d'entraînement avec cette section sport-études du lycée, où j'ai croisé sur un pas de tir les biathlètes. Et je me suis intéressé à ça. Et tout d'un coup, ça a été le coup de foudre.
Ah oui.
Ouais. Ouais, le coup de foudre sur ce côté double discipline. Si on regarde ça de loin, ça peut paraître un peu étrange, un peu bizarre. Et puis quand on s'y intéresse et qu'on commence à pratiquer, c'est passionnant parce qu'il faut creuser comment combiner ces deux choses, comment travailler la tête pour aller vite sur des skis et puis ensuite passer au tir.
Mais comment concrètement tu as commencé? Parce que tu as dit « je veux faire comme lui ou le biathlon » et en fait au début quand tu es petit... Bah, même adolescent, quoi. T'es tout de suite sur une carabine à 50 mètres ou c'est d'abord des carabines à plomb? Comment?
Alors, moi, ça a été à 50 mètres direct. Et en fait, oui, on est passé lors d'un entraînement sur le pas de tir.
Oui.
J'ai dit, je crois que je l'ai dit tout haut, ah, j'aimerais bien essayer. Et c'est tombé dans l'oreille de Laurent Monnier, qui était l'entraîneur de biathlon. Et il l'a pris tout de suite. Il est venu me voir au bus. Il m'a dit, demain, on se voit au stand de tir. Et c'était parti. Et donc, en effet, c'était là directement à 50 mètres. En tir couché, avec une carabine très lourde, mais ça a été... et après, il ne m'a pas lâché.
Ouais. Ah ouais, c'est génial. Et donc, dans le Jura, tu as été, j'imagine, les premières fois où on commence à vraiment parler du biathlon, c'était les Baïs Salins,
C'est ça. Et donc, pendant une année, j'ai fait les deux, ski de fond et biathlon. Donc, même en ski classique, j'adorais ça. Et biathlon, j'ai fait mes premières courses de biathlon, puis au bout d'une année après ça encore, ben j'étais à peu près au même niveau, j'étais quatrième français en fond et quatrième biathlète.
Ah oui.
Et donc il a fallu choisir parce qu'à un moment tu peux pas bien faire les deux disciplines et voilà. Et j'ai eu un déclic notamment par Stéphane Boutiou et Patrice Baïsalin.
D'accord.
Parce que lors de mes championnats de France, mes premiers championnats de France junior de biathlon, eh bien, logé dans l'hôtel du comité du Jura. Et le soir, j'ai Baïs Salin qui est venu me taper dans le dos et qui m'a dit « Ah, c'est bien ce que tu as fait, petit jeune. » Et moi, j'étais impressionné. Et puis, le lendemain, il y a Steve Boutiou, que je connaissais déjà un peu parce qu'il m'avait entraîné dans ma toute jeunesse, qui est venu en remettre une couche en disant « Ah, c'est cool que tu sois là. » Et là, ça m'a emmené. Et puis après, il y a eu Christian Dumont qui m'a aussi beaucoup aidé, qui a été un peu un père spirituel pour moi et j'ai rencontré grâce au biathlon des gens qui comptent beaucoup pour moi.
C'est bien parce que en fait on se rend compte qu'on a besoin de rôle modèle, d'inspiration, de très grands champions qu'on côtoie ou pas d'ailleurs, et puis aussi de personnages clés, de rencontres en fait humaines dans une carrière.
Ouais, parce que forcément je crois qu'on est attiré par le sport, on est attiré par des gens qui nous inspirent. Des fois on sait l'expliquer, des fois on sait même pas vraiment l'expliquer. Moi, Vegard Ulvang, en ski de fond, il me faisait rêver, mais je saurais pas exactement dire pourquoi. C'est son aura, sa manière de skier, mais voilà. Et d'autres, qui ont été. En effet, j'ai eu la chance de les rencontrer beaucoup plus profondément avec Patrice Baïs Salin, Steve Boutiou, puis après tout plein d'autres. Ouais.
Oui. Ouais. Et puis, après, donc, t'es arrivé en équipe, ça a été quand même assez rapide, hein, ta progression.
Ouais.
Au tout début, t'es arrivé, c'était Raph Poiré qui était vraiment super fort, hein, parce qu'il a tout gagné. Ouais. Et puis finalement, avec lui, t'as gagné notamment cette médaille au relais, je me rappelle, pour quelques centimètres, au jeu.
Ouais,
ça, c'était après ta médaille, ton titre.
Ouais,
hein. Donc est-ce que c'est le point d'orgue de ta carrière, ce moment-là, des Jeux Olympiques de Turin?
Turin, parce que c'est quand même mon meilleur résultat.
Oui.
C'est le plus prégnant, c'est celui qui m'a laissé le plus gros héritage, que ça soit dans le cœur et puis dans l'expérience sportive ou dans la vie sociale, parce qu'évidemment, c'est quand même... quelque chose qui change énormément de choses dans la vie quotidienne que d'être champion olympique. Et donc oui, c'est le le moment fort de ma carrière, clairement, même s'il y a eu d'autres moments incroyables avant et après.
Ouais. Ouais. Et reparle-nous de cette journée, puisque en fait, on parle souvent, comme je l'ai dit en intro, de ce dernier virage où tu trébuches presque avec Björn Dahlen, et puis finalement, tu lui parles devant et tu vas gagner ce titre, alors que c'est quand même Björn Dahlen, quoi, celui qui, avec Raph Poiret à ce moment-là, domine. Historiquement, c'est un immense champion, un dieu presque du biathlon. Mais finalement, ça se joue là, mais ça se joue aussi sur toute cette journée. Comment tu l'as vécu, toi, cette journée-là?
Ben je
tu t'en rappelles? Parce que des fois, tu sais, on...
Non, mais je m'en rappelle. Alors, je me rappelle de plein de choses. On me parle tous les jours de l'arrivée, du sprint, de la presque chute juste avant l'arrivée. Donc... Et vraiment, ça commence à remonter un peu, mais on m'en parle en moyenne une fois par jour.
C'est incroyable.
Et comment je l'ai vécu? Je sentais que j'étais très, très en forme. Je partais cinquième du sprint, donc je savais que j'étais bien placé et que j'avais de quoi bien faire. J'étais impatient depuis l'arrivée du sprint, donc la course qui précède la poursuite. Et donc, j'étais hyper impatient d'être au départ, quoi. Et après, je me rappelle m'être mis un petit speed à l'hôtel à me dire... je faisais, comme d'habitude, ma petite routine de préparation de course. Et je faisais mon travail de position avec la carabine à l'hôtel. Et puis, tout d'un coup, je me suis aperçu que je m'étais mis à la bourre. Je me suis dit, non, mais là, tu ne te mets pas à la bourre aujourd'hui, quoi. Donc, voilà, j'ai eu quelques petits speeds en début de... Enfin, dans la préparation, dans la matinée. Et puis après, ça a été hyper fort, quoi, parce que j'étais prêt dans la tête, j'étais en super forme. Et puis, il y a eu ce truc assez incroyable. En effet, j'ai failli tomber alors que je jouais le sprint pour cette médaille d'or. Et ça, c'est assez marquant et presque perturbant de se dire qu'un tel bonheur et un tel accomplissement, je suis passé à pas grand-chose de ne pas le vivre, quoi. Mmh. Et donc, c'est... C'est un peu perturbant, puis à la fois, c'est...
Est-ce que ça t'a pas mis un coup d'adrénaline pour le sprint final, finalement?
Certainement. Après, en effet, il y a un peu des physiologistes qui sont venus me voir, comme m'ont dit, à mon avis, là, t'as eu un coup d'adrénaline. En effet, physiquement, ça t'en a remis. Après, je sais aussi, pour en avoir discuté avec Ulla Einar, Björn Dahlen, que... Ouais, il était cuit. Moi, il m'en restait un peu. Lui, il ne lui restait rien du tout. Et donc, ça a fait la diff. Mais c'est vrai que c'est...
Ouais, parce que psychologiquement, dans cette dernière, quand vous partez du dernier tir, toi, dans ta tête, en face, t'as quand même Björn Dahlen, quoi.
Ouais.
Et tu vois, on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'attaquer? Est-ce que tu aurais pu dire, je vais défendre le podium? Toi, dès le début, tu te dis, je vais aller chercher l'or? Quand tu pars du...
Il y a eu plusieurs phases dans le dernier tour. Déjà, l'anecdote, c'est qu'au début du dernier tour, je pars avec un peu d'avance. Björn Dahlen, peut-être 6, 7, 8 secondes, je ne sais plus, à peu près ça. Mais j'ai un des gars, Bruno Languet, qui était un des kinés, qui était placé à un endroit du début du tour pour nous renseigner. Il était tellement excité qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux et il m'a dit... dernière, il y a Ulla Einar à 6 secondes et derrière, ils sont tous là. Et en fait, il s'est un peu emmêlé. Il voulait dire, ils sont pas là. C'était pour me renseigner et me dire, faut gérer Björn Dahlen, le reste, ça va aller. Et donc, j'ai paniqué parce que je me suis dit, oh non. Et bon, j'ai mis un peu de temps à prendre l'occasion dans un virage de regarder derrière. Et après, j'ai vu qu'il y avait un gars. Mais bon, j'ai vite vu qu'en effet, c'était Björn Dahlen. Et là, j'ai eu un petit coup. Pendant quelques secondes, je me suis dit, voilà, c'est mal barré. Parce que voilà, c'est Ulla Einar. Et je me suis repris quelques secondes après à me dire, mais ça va pas, non? Si t'es devant, t'es devant. Et voilà. Et après, il m'a doublé, je me suis accroché. Et là, je suis rentré dans une phase tactique et en me disant, mais non, je dois finir devant. Et c'est vrai que c'est d'avoir ce gars-là que j'estime beaucoup au niveau humain, au niveau personnel, avec qui lutter pour une médaille d'or olympique, d'avoir ce scénario de la j'ai presque chuté puis finalement j'ai réussi à tenir debout et à revenir, ça a fait un scénario assez incroyable pour avoir des émotions fortes pour moi et puis pour d'autres aussi, quoi. Et ce qui est assez perturbant, c'est qu'on m'en parle tellement, et ça depuis pas mal d'années, c'est que mon souvenir a un peu évolué. au départ, j'avais le souvenir caméra embarquée, moi, au-dessus de mes skis à vivre. Et on m'en a tellement parlé que je me vois un peu faire plutôt, tu vois.
Ah, oui.
Parce que les gens m'en parlent avec leurs mots. Certains, j'étais dans le stade, d'autres, j'ai vu à la télé, etc. Donc ça a un peu fait évoluer mon souvenir. Et,
ah, c'est marrant.
Et c'est très partagé, du coup, parce qu'on m'en parle énormément, encore une fois.
Ouais. Et sur le podium, tu l'as vécu comment, la Marseillaise Tu t'en rappelles ou pas? Ça aussi.
Alors, le podium des fleurs juste immédiat, j'étais vraiment, je me disais, mais c'est grâce à eux. Parce qu'il y avait toute l'équipe technique, etc., en face, il y avait mes parents pas loin. Et donc, je me disais, c'est grâce à eux, quelle chance j'ai, etc. Et puis, j'étais ému aussi parce que Ulla Einar et Sven Fischer, qui est un grand ami et qui est devenu encore, vraiment, c'est un grand copain. Et que j'estime aussi beaucoup, m'ont témoigné beaucoup d'affection, ils m'ont porté, et ça, c'était quand même assez incroyable physiquement de se sentir monter grâce à ces deux gars. Et voilà, et après la Marseillaise le soir sur la remise des médailles, c'est. Ouais, j'ai pensé à Arnaud, un de mes potes d'enfance qui est parti trop tôt, qui est décédé, et en tout cas, j'ai ce souvenir-là qui est revenu. À me dire, bah, y a des gens qui ont compté pour moi et qui m'ont aidé à être là, et il en faisait partie. Puis après, j'étais un peu semi-conscient, je pense, quand même.
C'est génial. Ouais. Et alors, combien de jours après le relais? C'est combien de jours après?
Le relais, ça devait être 4 jours, je pense, après.
Ouais.
Ouais, ouais. Et là, on fait médaille de bronze.
Oui.
Ouais.
Avec Raph qui jette le pied et ça se joue
avec les
5 cm.
Ça se joue à très, très peu. Et en effet, il va arracher la médaille de bronze. Et ouais, c'était génial parce que d'un autre côté, le lendemain de la médaille individuelle, je me suis dit, il y a le relais. Et je me suis dit, oulala, il faut assurer parce qu'il y a l'équipe qui arrive, il y a le relais, et je me suis mis une pression d'enfer pour faire un beau relais. Ce que j'ai fait, je suis très fier de ça, mais je voulais pas gâcher la fête, parce que c'était une grande réussite en individuel. Je me disais, mais si je me rate, ou si on rate le relais, ça va être trop dommage. Donc je me suis mis une pression incroyable pour ce relais.
Oui, et puis en plus, il y avait Raphaël Poiré, qui était passé un peu à côté de ses jeux, qui finalement, entre guillemets, sauve ses jeux avec cette médaille de bronze en relais, quoi.
Ouais, c'est ça, et c'était bien pour lui, c'était bien pour Ferréol, Juju, les autres gars de l'équipe, pour le staff, parce que médaille en relais, c'est tellement incroyable que c'est encore plus la récompense que les médailles individuelles pour l'ensemble de l'équipe et quelque part la France, quoi, on va dire.
Oui, oui.
Et ouais, c'est génial. Et puis ouais, pour Raph, c'était bien, même si... il avait envie que ça marche, évidemment, en individuel, mais voilà.
Je me rappelle, il me semble que quand j'ai lu son livre, il parle de toi et de la manière dont tu... que des fois, il t'enviait de la manière dont tu préparais les courses, dont tu étais un peu plus calme que lui, parce que lui, il fallait qu'il se mette souvent dans le dur pour aller chercher, chercher fort. Et il disait, j'envie un peu Vincent, parce qu'il était quand même tellement plus calme que moi et plus cool. Est-ce que c'était... une apparence pour toi, mais tu bouillais quand même à l'intérieur, ou effectivement tu penses que tu étais beaucoup plus smooth, beaucoup plus cool que lui?
Ouais, c'est plus une apparence, mais sur les jeux, c'est vrai que sur, on va dire, les jeux, que ce soit ceux de Salt Lake, ceux de Turin, qu'on a fait ensemble avec Raph, lui, il a basculé un petit peu dans la nervosité de l'enjeu, de l'événement, etc.
Il arrivait aussi en tant que favori,
plus. Il avait une pression incroyable, il avait à défendre des choses quelque part, ou à valider des choses, et moi j'étais plus là en challenger, et je l'ai pris plutôt du bon côté, d'avoir l'envie et le plaisir et le bonheur d'être là, mais j'étais quand même aussi très dans l'intensité aussi, mais c'est vrai que Raph, c'est peut-être l'occasion de lui faire un énorme coup de chapeau, même s'il n'y a pas besoin du mien, mais pourquoi et comment coup de chapeau, c'est un mec qui m'a aidé à faire ça, qui a été un moteur incroyable. Parce qu'à un moment, je me suis mis comme challenge, comme enjeu de battre Raphaël Poiré. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, tu dois te hisser à un niveau incroyable parce que lui-même était, en effet, c'était l'alter ego de Björn Dahlen. Les deux étaient à un niveau incroyable. Et puis, c'était la marche à suivre pour aller gagner une Coupe du Monde, aller gagner les Jeux. C'était de devoir battre ces gars-là qui étaient des modèles de travail, des modèles de performance, des athlètes incroyables. Et d'avoir eu Raph dans l'équipe de France, à mes côtés, même si on a été un peu chien-chat à un moment, des fois c'était un peu la guéguerre, des fois on s'aimait beaucoup, mais mais c'est quelqu'un qui m'a aidé énormément dans ma carrière et qui a fait passer le biathlon français à un niveau vraiment supérieur grâce à toute l'exigence qu'il a su insuffler.
Et à un moment, justement, Raph, il a beaucoup amené aussi au niveau du tir, où il a accéléré son tir. Ouais. Moi, je me demande toujours, enfin, j'essaie de me mettre à la place quand je vous vois arriver, là, les biathlètes, essouffler, voilà, gérer l'arrivée sur le pas de tir et se mettre en position. Et je me dis, dans la tête, entre guillemets, j'aime pas dire vous faites le vide, parce que tu fais jamais le vide dans ta tête, vraiment. Mais toi, tu avais des automatismes pour te mettre en mode je respire. Est-ce que après chaque tir réussi ou raté, il y avait une prise de conscience, ou à chaque fois tu reviens dans ta routine de je vise la cible, je mets mon doigt sur la... Enfin, comment ça se passait, le tir pour toi?
Alors, c'est vrai que dans les meilleures périodes et les tirs les plus efficaces, tu es dans un état de semi-conscience où tu as tous les automatismes qui se font grâce au travail qui a permis que ça soit des automatismes. Et donc, tu n'as pas une attention forte là-dessus. Et par contre, tu mets l'attention forte sur l'acuité visuelle vers la cible, parce que ça s'invente pas. Il faut le mettre en application à chaque balle, chaque tir, chaque balle. Et aussi, quand même... un petit peu de conscience très éveillée pour réagir quand il faut ajuster avant de rater, ou ajuster après une balle manquée. Donc c'est un mélange un peu subtil et délicat de tout ça, de conscience, d'automatisme, de flow, un peu comme on peut dire, de choses où on maîtrise les choses sans forcément être dans une conscience très directe et une attitude trop directive, quoi. Mais c'est vrai que oui, Raph, c'est un exemple sur le tir, a fait progresser en précision, en temps de tir. Il n'y a pas que lui, hein, évidemment, mais il a su aller chercher le meilleur de la Norvège sur le ski, sur la préparation technique, le meilleur des jeunes Allemands de Martina Glago, Andrea Henkel, qui faisait passer dans une autre dimension en termes de vitesse de tir. Et donc, il nous a incité à avoir un état d'esprit dans l'équipe de France très ouvert, d'aller chercher ce qui se fait bien dans les autres nations et de les mettre en application.
Ouais. Et cette continuité de bons résultats, je parle de l'équipe de France en général, hein, filles ou garçons, depuis un peu les années avant toi, mais aussi tout le long, il y a quand même eu toujours, on a l'impression qu'il y a un esprit, comme on dit le French flair en rugby, on a l'impression qu'il y a le French flair aussi en biathlon, ouais. Et ça continue. Aujourd'hui, avec l'exposition encore plus télévisuelle, en clair avec l'équipe, clairement, il y a un engouement et ça doit être sympa de se dire on a fait partie des repères aussi,
tu vois. Oui. Et en dissociant vraiment ma personne de ça, parce que je suis juste...
Tu fais partie de l'histoire.
Fais partie de l'histoire, mais à ma manière et pas forcément plus que d'autres, mais... Je suis fier du biathlon.
Oui.
Je suis fier de... Et je trouve que la Fédé internationale, alors elle n'est pas parfaite, mais elle a fait un beau job de développement du sport en le faisant évoluer sans le dénaturer. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne une course... Les nouveaux formats de biathlon qui ont été ajoutés, c'est des formats qui restent cohérents par rapport à ce qu'on veut mettre bout à bout pour faire une course de biathlon. Il n'y a pas des choses tarabiscotées qui ont été inventées juste pour tenter des choses. Bref,
c'est pas comme le parallèle en ski alpin, par exemple, qu'on essaye de faire.
Bon, je sais pas, mais en tout cas... En tout cas, je trouve que les nouveaux formats et puis l'évolution globale du biathlon a été bien faite du niveau international. Et dans cette évolution, l'équipe de France a fait un beau job, en effet, d'aller trouver, comme on le disait, ce qui marche bien dans telle nation, de s'inspirer de ci, de ça. Et grâce à la passion, un peu des piliers du biathlon, encore une fois, Christian Dumont ou d'autres, y a un fil rouge, la passion. Et puis, à chaque génération, il y a des choses qui s'ajoutent, sans oublier le passé. Et donc, c'est plutôt capitaliser puis ajouter des nouvelles choses. Donc, ça fait quelque chose, en effet, de manière assez incroyable, avec des résultats qui s'enchaînent. Et il y a... Bon, là, on se parle où l'équipe de France est un peu masculine et un peu plus en difficulté. Mais ils vont revenir. Et puis, ça fait la beauté de ce sport aussi, où il y a des moments où il faut réagir. Mais c'est vrai que la performance historique de l'équipe de France en biathlon, c'est assez incroyable, quoi. C'est même bluffant et, ouais, et c'est plaisant.
Ouais. C'est plaisant, ouais. Mmh. Ouais. Et alors, tu parlais on parlait de marquer l'histoire. Toi, après, t'avais envie de ta reconversion, donc t'as travaillé ensuite après avec le CIO, le Comité International Olympique. Aujourd'hui, t'as ta marque ta marque de vêtements haut de gamme, on va en parler juste après. Mais comment tu as effectué cette transition entre le biathlon, ta carrière, et puis finalement, ça a été tout de suite le travail avec le CIO assez vite, c'est ça?
Ouais, assez vite, avec le CIO et Somfy.
Et Somfy, oui, Somfy, oui, voilà, à la fondation.
Ouais, oui. Parce que ben, ma réflexion, ça a été à la fin de ma carrière de me dire... J'ai envie de rester dans le monde du sport, mais un peu différemment de cette vie d'athlète. C'est pour ça que le côté coach, c'était un peu trop proche quand même de la vie d'athlète. Donc, j'avais envie de rester dans le monde du sport, mais de le vivre différemment. Et puis, d'être un peu ouvert aux autres. Alors, c'était un peu flou au début de ma réflexion, mais je me disais d'être auto-centré pendant toutes ces années d'athlète, c'est fantastique. Mais j'ai aussi envie de comprendre d'autres univers, d'autres personnes et d'être un peu plus ouvert d'esprit ou ouvert au quotidien. Et donc, de parler de ces deux ambitions, bah, j'en ai parlé au CIO pour dire le sport, je voudrais le découvrir, mais voir ce qui se passe d'autre que la vie d'un biathlète compétiteur. Et puis, j'en ai parlé à Somfy, qui était mon sponsor historique. Et là, Somfy m'a parlé de la fondation Somfy. Et du coup, pendant quelques années, j'ai partagé mon temps après ma carrière entre le CIO, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, et puis la Fondation Somfy, ce qui m'a permis de découvrir et d'agir au quotidien dans ces deux univers, le sport avec l'événementiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse, et parfois un peu les Jeux Olympiques avec le CIO, qui m'a accueilli de manière assez incroyable, et ça a été une vraie richesse. Et puis, eh bien, un autre domaine tout à fait différent, parce que celui de la Fondation Somfy, eh bien, c'était l'aide aux personnes mal logées dans une démarche de fondation d'entreprise, une démarche de responsabilité d'entreprise caritative auprès des associations.
C'est un domaine que tu découvrais complètement.
Ah, je découvrais complètement. Et ça a assouvi un peu ma curiosité humaine de découvrir l'autre. Et puis, curiosité technique de OK, comment ça marche une entreprise, comment ça marche la fondation d'une entreprise, etc. Et j'ai fait ça pendant quelques belles années. Et ça m'a un peu formé sur le tas de devoir créer des programmes, avoir un budget à utiliser, communiquer, etc. Et ça m'a fait découvrir la vie de l'entreprise et puis la vie de ces grands événements olympiques.
Ouais, génial. Mmh. Et ensuite, comment tu as décidé finalement de partir sur encore un autre domaine?
Ouais.
Je ne sais pas si tu avais des connaissances là-dessus, mais de créer ta marque de vêtements outdoor avec des normes de respect de l'environnement. Comment t'es parti là dans ce secteur encore? Ouais. J'ai pas envie de dire un virage à 360, mais quand même différent.
Ouais, différent. Bah, ça a été une réflexion assez régulière, progressive. En effet, j'ai arrêté ma carrière en 2010. De 2011 à 2019, j'ai eu ces activités avec le CIO et avec Somfy. Et ça m'a fait vivre, découvrir et penser à certaines choses qui ont été un peu les ingrédients de Hayak. Parce que Hayak, donc, c'est la marque de vêtements que j'ai créée il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'ai découvert l'entreprise, la force qu'une entreprise qui a envie de s'engager pour des sujets de société peut avoir. J'ai découvert aussi que le réchauffement climatique s'aggravait, se montrait de plus en plus prégnant et de plus en plus préoccupant. Et j'ai tout découvert le côté entrepreneurial en discutant avec les géants de Somfy, avec des gens qui ont créé des programmes au CIO, etc. Et toutes ces découvertes, ça m'a... donner envie de mettre un peu ça ensemble et en musique et de créer une entreprise, de créer une marque. Et puis, dans un domaine qui me passionne, le fait de proposer des vêtements pour aller en montagne, aller en plein air, mais de manière la plus responsable et la plus attentive possible face à l'environnement. Donc, en effet, c'était quand même loin de mon quotidien, mais j'ai pris le temps de vérifier que ça me plaisait assez pour m'engager à fond là-dedans. Et puis, j'ai pris le temps de me former à certains sujets avant de me lancer.
D'accord. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées?
Les difficultés, elles sont multiples. C'est de comprendre quand même tout ce qu'il faut faire, la chaîne de valeur, la chaîne de choses à faire pour qu'un vêtement soit au final sur les épaules de quelqu'un. Et c'est vrai que techniquement, c'est passionnant, mais il y a aussi, faut trouver... les compétences pour les différentes étapes, trouver les bonnes matières, trouver les bons fittings, les bons ajustements, confectionner, vendre, etc. Mais voilà, enfin, les étapes que j'ai dû surmonter et les problèmes, ça a été aussi lié au Covid. Parce
ah oui,
que
c'est vrai.
Le lancement de la première collection, ça a été l'année, l'hiver, vraiment, de
bien
Covid.
Bien visé, si je peux me permettre.
En 2020. Et ça a été un peu rock'n'roll et difficile, mais au moins j'étais au diapason d'un projet qui est difficile, mais avec de la passion et de l'entourage, ça peut bien se développer.
Et à l'inverse, est-ce que tu as identifié les qualités que tu avais développées pendant ta carrière de sportif de haut niveau qui t'ont servi dans ces challenges, que ce soit d'ailleurs avec le CIO ou avec ton entreprise Ayac? Mm-hmm.
Ouais. Alors, les qualités, je dirais, je pense que c'est la motivation et la hargne pour persévérer, pour travailler et puis persévérer, quoi. Parce qu'en effet, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, bah, on n'a rien sans travailler beaucoup, on n'a rien sans persévérer quand ça se passe moyen ou quand ça se passe mal. C'est vrai que d'avoir vécu des périodes difficiles, d'avoir vécu un sport comme plein d'autres, hein, mais où il faut se donner et c'est dur physiquement, mentalement, bah, ça m'a donné un niveau d'exigence que je mets en application quand c'est nécessaire, et c'est souvent nécessaire. Ouais.
Oui. Et tu parlais de ta sensibilité par rapport à l'environnement aussi. Est-ce que toi, tu es engagé avec des associations aussi, avec la Water Family, tous les deux, on est aussi pour la préservation de l'eau, sur des actions concrètes avec les enfants. Je sais aussi que tes enfants aussi, tu les amènes souvent en montagne avec toi. L'éducation par le sport, c'est quelque chose qui te parle?
Ouais, qui me parle. Déjà, ça me va bien de l'imaginer parce que j'en ai été le premier bénéficiaire. J'ai été bercé par une famille qui aimait aller dehors, qui aimait faire du sport, qui avait envie d'inculquer ses valeurs et ses pratiques. Et c'est assez naturel pour moi. Et même quand je prends 2-3 pas de recul, je me dis c'est stratégique. Donc c'est stratégique de passer ces valeurs-là à ses enfants. Enfin, stratégique, je ne sais pas si le mot est adapté.
C'est fondamental.
En tout cas, c'est utile, c'est fondamental. Et puis, l'environnement... Ben, évidemment, moi, je suis comme beaucoup de personnes. On a eu un éveil ces dernières années où on se dit il faut qu'on corrige des choses, il faut qu'on réalise qu'on ne va pas dans la bonne direction et qu'on doit s'en assumer la responsabilité. Et j'ai envie de le faire de manière positive, pas joyeuse, mais en tout cas positive et optimiste.
Ouais. Et tes enfants font du sport ?
Mes enfants font du sport. Mmh. On fait du sport en famille. Oui.
Pas de haut niveau pour l'instant, pas de...
Alors j'ai un judoka qui est à fond dans le judo, qui est un pôle espoir de judo. Notre deuxième, il est plutôt rugbyman, et le troisième également rugbyman.
Donc, ah oui.
Et c'est riche de découvrir ces belles disciplines. C'est bien aussi qu'ils aient choisi leur trace et leur voie à eux dans d'autres sports, et on fait du ski en famille.
Oui. Mais dis-moi, le rugby dans le Jura, les terrains sont pas gelés ou boueux peut-être?
Parfois. Non, c'est vrai que Pontarlier, la petite ville de Pontarlier, par rapport à sa taille, historiquement, a un très beau club de rugby. Et pas que par les résultats. C'est vrai qu'il y a une belle école de rugby qui forme des gars et des filles. Et puis, c'est un plaisir de découvrir ce sport. Et puis le judo aussi. C'est quand même des ambiances différentes du ski, mais avec... moi, je suis bluffé par le volume de travail, l'intensité des judokas. C'est assez impressionnant, donc c'est un plaisir d'être immergé dans ce sport grâce à nos enfants.
La position du papa ancien champion auprès de ses jeunes, auprès de ses enfants, c'est le positionnement, il est pas compliqué pour toi, ça va?
Si, il est compliqué, ouais. Mais il est moins compliqué, je pense, que s'ils avaient été dans le
ski.
Dans
le même sport, dans le biathlon.
Dans le biathlon, dans le ski. Moins compliqué parce qu'ils souffrent un peu moins de la comparaison, ou en tout cas de l'attente extérieure, parce qu'en effet, quand on a été champion dans un sport, il y a beaucoup d'ambiance autour des enfants, autour de la comparaison, et c'est pas évident à gérer. Là, elle est un peu plus évidente, ça se gère mieux quand même, étant donné que c'est décalé. Enfin, moi, en judo, j'ai peu de compétences.
Ouais. Est-ce que parmi tout ce que tu fais, t'as une passion cachée qu'on ne connaît pas? Est-ce que t'as le temps de faire quelque chose qu'on ne connaît pas? Je sais pas, de la musique, un peu.
Non, alors je suis un piètre guitariste, mais guitariste.
Ah, d'accord.
Parce que, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, je suis tellement passionné et tellement sollicité par Hayak et la, le développement de la marque et de tout ce qui va avec, que mon temps libre, c'est faire du sport en famille ou faire du sport. Mais c'est vrai que je suis attiré par plein de choses, très curieux, et c'est un peu ce qui me va bien aussi dans ce projet entrepreneurial, parce que c'est tellement...
À 360,
voilà, il y a tellement à faire et à découvrir que je suis servi, quoi.
Est-ce que tu as, pour revenir à ta carrière, tu as des regrets, tu aurais des choses que tu aurais fait différemment? Est-ce que tu aurais changé des choses?
L'analyse que je fais de mon comportement dans certaines phases de ma carrière, c'est que j'ai réagi pas assez vite quand j'avais une intuition sur un problème et la solution à y apporter. J'ai un peu laissé végéter certains choix d'entraînement où je me disais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et donc, ce que j'essaie de mettre en pratique maintenant, c'est de réagir plus vite quand il y a un problème et que je vois qu'il faut corriger les choses. Quand j'ai commencé à avoir des difficultés avec une méthode d'entraînement, je laissais un peu trop longtemps la chance à cette nouvelle méthode d'entraînement, alors que j'étais persuadé qu'il fallait changer, j'ai un peu perdu du temps. Donc c'est un peu dans les grandes lignes de ce que je retire, c'est de réagir plus vite quand on a une conviction, de s'écouter plus vite.
Ouais. De s'accaparer aussi peut-être le projet. Ouais. On se rend compte que des fois, pas mal de champions, soit qui, pas forcément en montant leur cellule, mais qui choisissent une stratégie, puis qui s'y tiennent et qui vont à fond, quoi. Et on se rend compte qu'il y en a plein qui du coup réagissent différemment. On le voit actuellement avec Justine Brezaz. Alors, il y a l'histoire de son projet familial, mais c'est aussi un projet de vie. On a l'impression qu'elle est beaucoup plus sereine aujourd'hui et en alignement avec ses valeurs, avec ce qu'elle fait. Parce que aussi elle s'est vraiment approprié son projet et c'est pas entre guillemets que la fédération et les entraîneurs et tout. Je pense que c'est des fois on a l'impression que c'est pas grand chose, mais ça fait vraiment une énorme différence au bout.
Ouais, c'est ça, parce qu'on est on n'est pas spectateur, on est acteur du projet qu'on veut mettre en place, et c'est ça. Et en effet, donc réagir vite, c'est ce que je disais, mais être aussi une des leçons que j'ai appris un peu après coup quand même. Du coup, en analysant certaines difficultés, certains échecs, c'est d'être radical, quoi. C'est pas faire des demi-choix, des choix un peu timides, c'est d'aller dans une direction et si on y va, on y va fort, quoi. Je dois continuer à m'améliorer là-dessus, mais j'essaie.
On a peur du changement, humainement, on a peur du changement, parce qu'on se dit, on va continuer comme ça, ça marche à peu près correctement, sauf que souvent, pour passer sur des étapes supérieures, il faut faire des choix radicaux.
Tout à fait. Et ça, dans un peu tous les domaines, il me semble. On se rate rarement par un mauvais choix, c'est plus parce qu'on fait un choix, mais on n'y va pas vraiment.
Tout à l'heure, on parlait de guitare aussi. Est-ce que tu écoutais beaucoup de musique pour te concentrer, pour te préparer ou pour te changer les idées?
Ouais, plutôt pour me changer les idées et par plaisir, parce que j'aime beaucoup la musique. Et je suis assez,
est-ce quel type de musique?
Alors, c'est très varié. Vraiment très, très varié.
En fonction de l'humeur.
Que le jazz qui n'est pas trop ma tasse de thé.
Non plus.
Mais le reste, vraiment, tu vois, tu peux me voir au concert de Madonna comme il y a un mois et demi ici à Paris. À des concerts complètement différents. Je suis très fan de musique très variée.
Et au niveau lecture, tu as des livres un peu clés qui t'ont inspiré pendant ta carrière? Ou peut-être pas du tout.
Pendant ma carrière, non, peu, non. Parce que j'ai jamais été un grand lecteur. D'accord. J'ai plutôt lu des choses justement dans ma reconversion et dans la préparation de cette aventure entrepreneuriale. Donc, c'est plutôt des livres sur justement comment construire une marque, comment construire une entreprise. Le livre Love Marx, je ne saurais pas dire l'auteur.
C'est pas grave,
mais on trouvera. Et Love Marx, c'est un livre très, très inspirant.
C'est génial. Donc on arrive petit à petit vers la fin du podcast. Est-ce que tu as une devise, tu as une devise dans la vie?
Non, je n'ai pas de devise. Je ne crois pas. Bon, je suis un peu sec là-dessus.
Non, mais peu importe. T'es pas obligé d'aller génie. Est-ce que tu avais? Pas forcément.
Non, en tout cas, j'ai un fil rouge qui n'est pas une devise, mais c'est de faire les choses intensément. Parce que c'est comme ça que je suis heureux et c'est comme ça que je trouve on s'épanouit. Mais je ne l'ai pas traduit en devise.
Alors, je vais te dire des mots. Il faudrait que tu me dises par association d'idées à quoi ça te fait penser. Tu peux dire un mot ou développer, comme tu veux. Biathlon.
Bonheur.
Ski de fond.
amour. Robert Carré, mon premier entraîneur, amour, ski classique, Nera, l'odeur de la Nera. Tu connais la Nera ?
Non, je connais pas
c'est
la Nera.
C'est un fart classique, tu mets
c'est pas, il y a pas de fluor, rassure-moi.
Non.
Ah bon, c'est interdit maintenant.
Ouais, voilà. Non, la Nera, c'est un des types de fart de retenue, donc en style classique, mm-hmm. quand tu mets au milieu du ski, tu mets une espèce de pâte qu'on appelle le clister ou la poussette, selon le type de neige. Et la Nera, c'est marrant hein, que ça me vienne comme ça, la Nera, c'est un fart qu'on utilise plutôt au printemps, quand la neige est un peu sale, transformée, avec des épines de sapin. Et ça a une odeur. En fait, c'est la Madeleine de Proust du skieur de fond. Quand tu as ça, c'est une odeur agréable, mais un peu étrange. Et l'odeur de la Nera, c'est très particulier. Et ça te remet dans tes séances de gamin quand tu vas skier au printemps et que tu fais les belles sorties sympas avec ton club. Quoi.
C'est marrant que tu me dises ça parce que ça me fait penser tout à fait à une réflexion d'Arsène Wenger qui est venu à ce podcast et qui me disait un souvenir d'enfance, etc. Il dit en fait, moi, c'est l'odeur de l'herbe coupée le matin. Ouais. Quand tu arrives sur le terrain de foot, voilà, cette odeur-là, je dis c'est, tu vois, c'est des moments d'enfance qui sont ancrés et qui te reviennent tout de suite. Quoi.
Clairement.
C'est drôle. On continue. Jeux Olympiques.
Ah, Jeux Olympiques, Turin.
Médaille d'or.
Médaille d'or du polo, Jean-Pierre.
Ah, tu penses équipe tout de suite.
Gilou, ouais.
Ah, c'est
Et c'est tout le monde, Raph, Juju, ouais.
Neige.
Neige, Ayak.
Oui.
Ayak, c'est la neige sur les vêtements en langue inuite. Et voilà, non mais ouais, et puis boule de neige, plaisir.
Ouais. Jura,
c'est les montagnes, Jura, Comté, non c'est chez moi.
Paris 2024.
Waouh, ça va être incroyable et c'est fierté. Enfin, d'accueillir les Jeux, je sais, c'est pas évident, les Jeux Olympiques. On se demande comment il faut les faire évoluer, comment ils doivent perdurer. Mais c'est une des choses les plus précieuses au monde, les Jeux Olympiques. C'est ce qui fait rêver, c'est là où les guerres s'arrêtaient. C'est là où les athlètes rêvent et que tout leur pays rêve avec eux. C'est précieux pour le monde et ses habitants. C'est des moments de magie et c'est des moments de communion. Et ça, il y en a peu, finalement, des univers qui peuvent réunir les peuples, faire rêver les gens. Le temps s'arrête quand il y a un sprint, le temps s'arrête quand il y a un penalty, etc. Et ça, c'est les Jeux Olympiques. Et quelle fierté de les avoir en France. Et évidemment, c'est difficile de très bien organiser des Jeux, mais le monde ne peut pas se passer des Jeux Olympiques, c'est trop précieux.
Ah, c'est une belle déclaration. tu vas aller le voir, certaines épreuves.
Je vais les voir. On a pris des billets avec ma famille pour le rugby, pour le judo, pour le skateboard. Moi, je suis un amoureux transi depuis mon adolescence.
C'est vrai que tu t'étais blessé au skateboard il n'y a pas si longtemps.
Ouais, c'est vrai. Ouais, je t'ai fait une épaule. Et c'est vrai, ça aurait pu être ça ma passion cachée parce que peut-être que ça se sait moins, mais. Avant d'être 100% à fond dans le ski de fond, j'ai eu quelques années où je passais autant de temps dans des baskets que sur une planche de skate. Ouais.
Ah oui.
Voilà. Mais donc on va aller voir le skateboard, on va aller voir le rugby, le judo. Ouais.
Ah, super. Présent.
Présent, intense. Parce que là, avec Ayak, ça fourmille. On a plein de projets, plein de choses qui se passent bien, plein de difficultés au quotidien, parce que c'est ça la vie de l'entreprise. On a eu un problème de stock, de logistique, là, c'est pendant les fêtes de fin d'année, c'était costaud. Et puis en même temps, on a plein de gens qui accrochent bien avec la marque, donc c'est très intense.
Ouais, super. Ouais. Et donc, avenir ?
Avenir, enfant. Ouais, je me projette à la fois dans ma
C'est-à-dire
vie.
Que tu veux d'autres enfants encore ?
Non, je pense à nos enfants et en effet, les enfants qui sont dans ce monde et puis le monde qu'on a envie de leur proposer et de construire avec eux. Et aussi nos trois enfants qui sont sympas, qui sont des ados qu'on a envie d'accompagner.
Pour terminer, mon podcast s'appelle Belle Trace. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace ?
Une belle trace, bah, c'est celle que tu regardes, je pense à la trace de ski. Ouais, on est quand même skieur et c'est une chance incroyable. La trace, tu vois, tu viens de descendre ou de passer un endroit et c'était tellement bien que tu te retournes pour la regarder.
Merci Vincent, ouais. C'était vraiment un très bon moment.
Merci Flo, merci Flo.
Et voilà.
Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes. Allez, tchuss! Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes. Allez, tchuss !